Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour à tous et bienvenue pour cette quatrième étape qui va nous mener de Neuvillers-la-Roche à Bourbruche. Et je vous ai laissé hier, je vous ai dit que j'avais un hébergement. Et effectivement, j'étais attendu par Martine et Henri. Bon, j'étais attendu, non, je suis arrivé. Il y avait juste une oie dans la cour. Et elle poussait des cris, je me suis dit, bon, j'y vais pas et tout. Et je suis arrivé jusqu'à la porte, j'étais pas à la porte, il n'y avait personne. Et on m'a expliqué que Martine, elle était en train de s'occuper de son beau-père. Et donc, voilà. Donc j'ai dit, pas de problème, je vais patienter. Et gentiment, il y a une dame en face qui s'est dit, mais qu'est-ce qu'il fait lui avec son sac à dos et qui m'a proposé de rentrer chez elle. Et grâce à ça, j'ai pu faire mon montage. Enfin, j'ai pu... Sauf que mon ordinateur a remanifesté des petits signes de faiblesse. Et ce qui est rigolo, c'est que je venais juste de recevoir un mail de Inès qui m'avait sauvé la mise quand l'année dernière, pendant ma diagonale à Saint-Salvador, elle m'avait donné un clavier souple et j'avais pu terminer mon montage. Et là, je reçois son mail et paf, il y a mon clavier qui tombe en panne. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe, quoi ? Et bon, et j'ai réussi un peu à manipuler le truc, et c'est reparti, j'ai pu terminer, donc vous avez pu avoir votre épisode hier. Je referme la parenthèse. Martine et Henri, pour vous résumer la situation, sont deux retraités. Alors je précise que le bruit qu'on entend, c'est le torrent qui passe juste devant la maison, quoi. Quel est votre rêve, Martine ?
Quel est mon rêve ? Oh là là, moi j'en ai plein des rêves, c'est compliqué le choix. J'ai encore quelques années à vivre et j'ai une grande, grande nostalgie de mon enfance. Donc des fois, je me dis, si je pouvais échanger ce qui me reste contre un an de mon enfance, je le ferais. Ça, c'est pas un rêve, c'est quelque chose de totalement impossible à réaliser, mais ça me plairait bien. Je me trouve pas très bien dans cette époque-là. Je suis pas très dans ma place. Et la période où je m'étais vraiment sentie bien, c'était quand j'étais gamine, quoi, jusqu'à 10 ans.
Quel souvenir vous avez de cette époque-là ?
Vous avez 3 heures devant vous, 3 ou 4 heures, la nuit complète.
Pas pressé, bon, il faut que je marche, mais bon, après...
Voilà. De cette période-là, déjà, là, j'ai eu une enfance joyeuse et libre. Et cette liberté-là, je n'ai plus jamais retrouvée. Ni la joie, parce que je ne me souviens pas avoir eu des contrariétés. Je ne me souviens pas. J'ai toujours... j'ai grandi avec les vieux du village, j'ai grandi avec mon cousin, j'ai grandi avec mes amis, avec mes parents. Et c'était une période où j'ai absolument, quasiment... Je ne sais pas, je cherche le mauvais souvenir. Hein, j'en trouve pas. J'en trouve pas. C'est une période... ça sentait bon, ça sentait... Il y avait encore des odeurs de vache par-ci, par-là, ça sentait bon. Il y avait... les odeurs de pluie, la pluie le matin, tout ça, c'est des choses que... Alors, je ne dis pas que ça ne sent plus, mais il y a quelque chose qui manque. Il y a quelque chose qui manque. Et moi, l'enfance, c'est quelque chose que je demanderais juste encore retrouver pendant quelques jours. Quoi.
Voilà. Ouais, je vous le souhaite.
Hein. Ça ne me marchera pas. Je vous remercie beaucoup. Quoique, des fois, avec l'ordonnance gaga, un peu. je ne sais pas si vous avez remarqué, mais j'ai beaucoup dans mon entourage, dans mon environnement.
Dans votre décoration.
Voilà, j'ai des animaux partout. J'ai ma ferme là-bas, encore quand j'étais enfant. J'ai tout ce qui était... Alors, c'est con, hein. On ne devrait pas rester comme ça, collé sur le passé. Mais si ça fait du bien, pourquoi pas. Voilà, ça fait de mal à personne, je pense. Hein.
Ah oui. C'est vrai que derrière vous, il y a une étagère qui est remplie d'animaux en plastique, comme une crèche.
Les animaux de la forêt. Les animaux de la forêt, là-bas, j'ai des chevaux. Là, c'est comme ça.
Mais autrement, vous parliez des animaux. Les vrais animaux que vous avez eu une oie, donc j'en ai parlé, chien.
J'ai eu beaucoup, beaucoup d'animaux. J'ai encore fait le compte il n'y a pas longtemps. J'ai dû avoir à peu près... dans ma vie, j'ai dû voir passer une quarantaine d'animaux, toutes espèces confondues. Il y a eu des chats, beaucoup de chats, il y a eu des chiens, il y a eu des chevaux, il y a eu des ânes, il y a eu des chèvres, il y a eu des oies. Et c'est beaucoup des animaux que j'ai récupérés. J'ai fait partie pendant quelques années d'une association où, enfin, c'est mes animaux qui m'ont amené ça. J'ai pas eu des animaux qui venaient seulement de l'association, mais ça m'a amené à, voilà, à faire un peu de protection animale, quoi, à un moment donné de ma vie. Et j'ai récupéré par-ci, par-là, des laissés pour compte, quoi. Voilà. Depuis que je suis enfant, je pense avoir, enfin, j'espère que j'ai un contact particulier avec eux. Et ils font partie de ma vie, et du coup, bah, ça me rend heureux, ça me rend heureuse, mes animaux, et l'endroit où je vis. Ici, c'est là où je suis née, et c'est là où je suis bien. J'ai connu d'autres endroits, mais je suis toujours venue ici. J'ai mes racines et je suis très bien. Et ça me suffit, ma forêt, voilà, et mes animaux.
Et alors, je voudrais savoir, Henri, quel est votre rêve?
Oh, j'ai encore pas mal de choses à faire. Je sais qu'il me faudra plusieurs vies pour le faire. C'est un ensemble de pas mal de trucs que j'ai gardés au fond de mes garages. Bon, il y a de la vieille voiture, il y a de la vieille moto, il y a de l'ULM, il y a plein de choses. Et je sais que je ferai pas tout ce que je voulais faire, mais ça fait rien. Je conserve tant qu'il y a de la vie. J'ai roulé longtemps dans ma jeunesse en 4 chevaux. Et puis bon, on va essayer de remettre ça en route, quoi.
Bon, ben, je vous le souhaite, hein. Et alors, la particularité, enfin, je ne sais pas dire si c'est la particularité, mais de Neuvillers-la-Roche, c'est que vous êtes juste à côté du camp de Strudhoff. Ah, ça, c'est le chien.
C'est Fernand. Fernand, vous le dehors, le Fernand.
Non, non, mais il n'y a pas de
C'est
souci.
Fernand.
Non, non, mais ne chassez pas le chien, moi. Ce que j'aime, c'est la vie, hein. Tu veux une interview? Tu veux parler, Fernand? Il s'appelle Fernand, le chien.
Il s'appelle Fernand.
D'accord.
Ouais.
Oui, donc je disais, la particularité, ou une des particularités, c'est que vous êtes juste à côté du seul camp de concentration qui était sur le territoire français, encore que ce n'est pas tout à fait vrai, puisque à l'époque, l'Alsace faisait partie de
Voilà,
l'Allemagne.
nous avons été
Donc,
annexés.
voilà.
Pour moi, ben, c'est l'histoire de mes parents, hein. C'est l'histoire de mes grands-parents aussi, quoi. C'est quelque chose qui a marqué quand même notre village.
Et vu que vous habitez juste à côté du camp de Strudhoff, est-ce que c'est possible qu'on aille le voir ensemble?
Oui, bien sûr, pas de problème, hein. Je vous y emmène.
Bon ben, Henri, je vous remercie, hein, pour votre accueil et puis
bon voyage.
Merci.
Allez, go.
Et donc on est sorti de chez Martine et Henri. On arrive sur la route forestière de la carrière. On est un peu en hauteur, le ciel est bleu encore, un petit vent frais.
Mais là, on est sur le chemin d'accès des prisonniers. Les prisonniers arrivaient donc du camp du Struthof à 150 mètres en contrebas. Ils arrivaient par ce chemin pour accéder à la carrière du Struthof, à la grande carrière du Struthof, qui avait été. Donc le site du camp du Struthof avait été choisi parce que à cet endroit-là, il y avait du granit rose. Du granit rose qui était très recherché par Speer, l'architecte d'Hitler, pour ses grands projets pharaoniques en Allemagne, Germania, ou enfin bon, tous ces projets-là, quoi. Et donc ils ont installé ce camp à proximité de la carrière pour la main-d'œuvre. Il est devenu le seul camp sur le territoire français, mais il faut quand même bien penser qu'à l'époque où il a été construit par les Allemands, nous étions Allemands, nous avions été annexés. Hein, en juin 40, nous sommes devenus Allemands. Hitler a repris ce qu'il estimait être à l'Allemagne, quoi. Avec tout ce que ça a comporté après de frustration pour les gens du coin, en particulier la corporation de force, qui a laissé d'énormes traces dans le souvenir des gens et beaucoup d'incompréhension chez les Français, quoi.
Les malgré nous.
Et malgré nous, voilà. Et le terme malgré nous a été très très souvent contesté par. Enfin, contesté ou en tout cas nié par une bonne partie des Français qui n'ont pas compris, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est dur à comprendre qu'on puisse, même en étant forcé, qu'on aille se battre pour ces gens-là. Mais il n'y avait aucune solution de faire autrement, quoi. C'était comme ça. Si on ne partait pas, ben, c'était la famille qui partait, qui était déportée, quoi. On pouvait partir. La ligne de démarcation était tout près, au Donon, hein. Donc, il y avait des passeurs, il y avait ce qu'il fallait pour pouvoir échapper à la corporation. Mais la famille trinquait, quoi. Voilà, là, ici, on arrive à l'entrée de la carrière, proprement dite. Donc là, vous avez devant vous une grande esplanade qui paraît complètement vide. Donc il faut imaginer, on verra un peu plus loin, il y a encore quelques restes, des baraquements qui se suivaient, il y en avait à peu près, je ne sais plus, une bonne quinzaine, tous les mêmes. Et ça, c'était la deuxième partie de l'occupation de la carrière, c'était des ateliers de démontage de moteurs d'avion. Donc la carrière, normalement, elle se situait là, ben, à votre gauche, là. Le front de taille est là.
Oui, la végétation a
la
poussé.
La végétation a poussé. On devine encore le front de taille. Donc tout ce qui a été dégagé a servi de remblai pour créer cette esplanade.
Et vous avez beaucoup étudié l'histoire de votre territoire.
J'aime pas trop lire le mot étudier histoire. L'histoire m'intéresse avec ce qu'il y a derrière l'histoire, avec ce qu'on en a fait par après et ce qui reste dans nos mémoires, quoi. Et l'histoire du camp du Struthof, c'est l'histoire de mon père, c'est l'histoire de ma mère, c'est l'histoire du village, c'est le vécu de mes grands-parents, c'est toute cette. Alors ça me ramène aussi à la première annexion, en 14-18 et tout ça, les souvenirs de ma grand-mère, enfin. Et c'est des moments qui sont extrêmement douloureux. On a une histoire qui est quand même très, très bousculée en Alsace. Et du coup, cette histoire-là, c'est la mienne. Et les faits historiques, je m'en fous, c'est pas important, mais c'est tout ce qui reste de ça, quoi. Et ça construit ou ça déconstruit des vies, quoi. Et c'est vrai que je me suis intéressée, j'ai beaucoup questionné. J'ai pas tellement lu, en fait, quand je réfléchis bien, c'est plutôt des questions que j'ai posées, des réponses qu'on m'a données, quoi. Ouais. Et j'en ai fait ce que j'ai cru bon en faire, quoi. Mais c'est souvent mes tripes qui parlent. Hein.
Le camp, par rapport à vos parents, ils y sont allés au Struthof?
Non, alors je vais vous montrer. On va aller à un petit promontoire un peu plus loin. Du village, en fait, les gens ne savaient pas au départ vraiment ce qui se passait ici. Donc ils voyaient monter les prisonniers sur la route en contrebas. Ils entendaient les coups de feu, les aboiements, la fumée tous les mercredis, la fumée du four crématoire, mais ça, ils ne l'ont pas su tout de suite. Voilà, en tout cas, pas dans ces proportions-là. Mais après, ils sont allés au camp, oui, puisque pour les soins dentaires, les soins médicaux, c'est passé au camp du Struthof. À l'entrée du camp, il y avait une espèce de dispensaire où les gens des villages environnants venaient se faire soigner. Donc Neuwiller, Nazwiller et même Roto, je crois, je ne suis pas certaine, et Wildorspin montaient ici pour se faire soigner. Donc ils voyaient les prisonniers, ils voyaient leur état, ils voyaient... Il y avait aussi dans chaque village des endroits où les Allemands venaient stocker, ils n'avaient pas la place ici, vous n'avez pas prévu, ils venaient stocker les choux navets, les pommes de terre, enfin, ce qu'ils avaient besoin pour nourrir, enfin nourrir. Voilà, ouais. Surtout se nourrir eux-mêmes. Et du coup, les prisonniers venaient, ils ramenaient les prisonniers avec eux pour récupérer ces denrées dans les caves des bâtiments communaux, quoi.
Et alors là, on vient de rentrer, il y a juste les fondations et tout a été rasé. Pourquoi c'est le
alors,
temps qui a fait...
Non, alors ces baraquements, donc là, ce qu'on voit qui est en béton, c'était uniquement les fondations et le reste, c'était en bois. Et ensuite, ces bâtiments-là ont été vendus aux enchères après la guerre. Donc il y en avait, moi j'en ai connu une à Roto encore qui a servi, c'était un monsieur qui tricotait des sous-vêtements, un vieux monsieur qui avait racheté cette baraque. Il n'y a pas si longtemps qu'elle a été détruite, bien dommage qu'il ne l'ait pas récupérée. Et le reste, ceux qui étaient de l'autre côté, à la toute fin de la guerre, tout de suite au début de la libération, Nazwiller a fait raser en fait. Les bâtiments ont été, le bois a été enlevé et tout ce qui était béton a été rasé. On voit les monticules au pied du front de taille. Ouais. Les bâtiments ont été poussés là-bas, quoi. Et ici, donc, quand on s'avance un petit peu, là, vers le cerisier, voilà, on voit Neuwiller.
Voilà, Neuwiller, ça, c'est votre village.
Il y a ma maison, là, à peu près, là, derrière les sapins plus petits que les autres, là. Et donc, ici, il faut imaginer que tous ces sapins-là n'existaient pas. Hein. Ici, c'était donc, il y avait une vue plongeante sur le village, et inversement, les gens du village voyaient la carrière, et qui était, on la voyait très, très bien, même quand j'étais enfant. La végétation n'était pas ce qu'elle est, donc on voyait cette barre rose en face de nous. Donc les questions, à partir de là, les questions, c'est quoi maman, c'est quoi maman, mes mères, enfin et tout. Et petit à petit, au départ, c'est que des questions toutes simples et des réponses aussi toutes simples. Et petit à petit, avec l'âge arrivant, les détails se faisaient plus précis. Mon père, c'était pareil, quand il parlait de sa période où il était à Tambov, là, au camp de prisonniers. Quand on était enfant, j'ai fini quand même par lui demander « Papa, qu'est-ce que t'as été foutre là-bas, quoi ? C'est quand même pas l'endroit pour aller en vacances. » Parce que forcément, il racontait le froid, il racontait le... La seule chose que je trouvais beau, c'est quand il me parlait des forêts de bouleaux. Les forêts de bouleaux à perte de vue. Ça, je trouvais ça beau. Je me dis « Ça, c'est bien, papa. Aller là-bas, dans une forêt comme celle-là, c'est sympa. » Et petit à petit, alors il a rajouté le froid, il a rajouté les poux, il a rajouté l'odeur, il a rajouté... Et puis voilà, Et j'ai fini par petit à petit par comprendre qu'il n'était pas à la fête là-bas, quoi, en fait. Et alors après, là, j'ai eu tous les détails, quoi.
Pourquoi le général de Gaulle n'est pas trop apprécié par ici ?
Alors, c'est surtout les gens côté Tambov, enfin mon père en particulier. Il avait appris que de Gaulle était passé pour aller voir Staline, pas très loin du camp de Tambov, et qu'elle avait refusé d'y aller. Alors, est-ce que c'est historique ou est-ce que c'est mon père qui... J'en sais rien. Et il aurait, et de Gaulle aurait une phrase, en fait, une phrase de mépris vis-à-vis des incorporés de force, quoi. Déjà, ouais, à cette époque-là.
Donc, le camp où était votre père, Tanhof, c'était où ?
Tanhof, c'est en Russie.
C'est en Russie,
ouais, ça. Ouais, c'est en Russie, ouais. Il a été, donc, il a déserté l'armée allemande pour ne plus combattre. Donc, c'était... Il a été fait prisonnier en janvier 1944. Et il est arrivé au camp de Tambov plus quelques mois après, parce qu'il fallait, voilà, il a été pris prisonnier en hiver. Et il a passé, oui, il est resté jusqu'en octobre 1945 dans ce camp, quoi. Ouais. Avec le froid, ils disent le pire, c'est, le froid, il dit on ne peut pas vraiment lutter parce que quand on n'a rien à bouffer, quoi. Il avait, je ne sais plus, 700 calories, même pas, par jour. Et il dit c'était l'odeur. Parce que les prisonniers mouraient de dysenterie, hein, le plus souvent, donc tous les excréments, voilà. Alors bien sûr, il devait aller, il y avait des latrines, mais c'était, voilà. Ils avaient ce qu'il fallait dans les baraquements, ils n'allaient pas aux latrines, ils ne pouvaient plus s'y traîner. Et forcément, il y avait des accidents, et il y a le redégel, l'odeur pestilentielle dans ces endroits-là, et au beignet jusqu'à, voilà, dans la boue jusqu'à mi-mollet, quoi. Donc ça c'était, il dit, alors, et quand il en parlait, il dit, l'odeur revenait, quoi. Ouais. On a toujours des odeurs d'enfant, l'odeur de la craie, l'odeur de l'encre de l'école, on la garde dans le nez. Lui c'était ce truc là, quoi. Ouais. C'est des vies qui sont marquées, quoi.
Et alors ce qu'on voit au loin là,
donc ça c'est le Donon, c'est la frontière entre l'Alsace et la Lorraine. D'accord. Et là-bas vous voyez quelques éoliennes, donc c'est au-dessus de Salles. Donc voilà, pareil, ça faisait la frontière aussi avec, à l'époque, hein, c'était la frontière avec les Vosges, l'Alsace. Donc toute cette partie-là a été, alors, et ça continue plus loin, jusqu'à vers cette Marion-Mines, et plus loin, là, jusque dans les Hauts-de-Vosges, l'Artsmann-Villerkopf, tout ça. C'était la ligne de front de la guerre de 14-18 que vous avez là-bas. Et ici, on peut lire toute l'histoire de la vallée de la Bruche, ici. Tout ce qui s'est passé, tout est résumé là. Ouais. Et en face, là, vous allez y passer pour partir, certainement, vous avez le col de l'Apéreux. Ah, là-bas, oui. Vous voyez, la place dégagée, et ouais, au pied, on voit quelques baraquements d'une ferme.
Ouais.
Voilà. Et ça, c'est le col de l'Apéreux. Celui-là aussi est chargé d'histoire. C'était l'endroit de communication entre les deux vallées, hein, entre la vallée de la Rotaine et de la Chirgoutte. Et cet endroit-là, c'était le bûcher. C'était là où il y avait le gibet, c'était là que la justice était rendue à Roto ou à Waldorspa, ça dépendait. Et ici, il y a eu énormément de sorcières en Alsace qui ont été brûlées. Ouais. De la fin du 16e jusqu'au début du 17e, il y a eu une vague de sorcellerie, voilà, ouais, qui a abouti à... Voilà. Et cet endroit-là, c'était le bûcher. On a eu 63 sorciers et sorcières qui ont été brûlés là-haut. Et il y a alors un fait qui est un petit peu particulier à ce bûcher-là. Il y a eu 30% d'hommes qui ont été brûlés là-haut, et ce qui est totalement inédit, parce que c'est les femmes, les sorcières, c'est pas les hommes, non, jamais de la vie. C'est les hommes qui faisaient brûler. Et ici, il y a eu 30% d'hommes, et bien souvent des familles entières, le père, la mère, les enfants. Et alors la théorie, c'est que je vous ai parlé hier de ce prince de Veldens, qui est de la Petite Pierre, qui a racheté le bord de la Roche pour exploiter les capacités minières le minerai de fer et un petit peu d'argent, mais très peu, du secteur. Et le savoir-faire minier n'existait pas ici. Donc il a fait venir des Bavarois, des Autrichiens un peu aussi, mais ce sont des Bavarois qui avaient ce savoir-faire. Et d'ailleurs qui habitent, qui ont fait souche au village de Nazuller, qui est en face de Sunneviller. Ils ont fait souche en terre catholique, puisqu'ils étaient catholiques, et nous protestants. Et ce Veldens, il voulait faire venir encore je ne sais plus combien de familles, 1000 familles, enfin un truc dément, de mineurs, quoi, pour travailler dans ces mines. Mais malheureusement, la capacité économique du bord de la Roche ne permettait pas ça. Donc il fallait faire de la place. Alors, il y a un historien qui pencherait pour comme il faisait partie du jury, des procès de sorcellerie, est-ce que c'est pas lui qui a poussé à brûler des familles entières pour libérer des maisons, libérer de la place? ce qui serait quand même particulièrement sordide. Mais bon, l'époque là étant ce qu'elle était, on peut tout penser, quoi. Voilà.
Ouais. Mais je vous écoute, Martine, et je me dis, mais vous avez été guide, vous avez été prof, vous avez été tout ce savoir.
Non, moi je suis juste curieuse, c'est tout. Ouais. Je suis curieuse et puis j'aime bien, voilà, j'ai toujours aimé raconter, j'ai toujours aimé discuter, je suis un peu bavarde d'ailleurs. j'ai ce gros défaut, j'ai toujours été. Et c'est pour ça que les vieux du village aimaient beaucoup quand je venais, parce que j'avais une qui s'appelait la Lise Victor. Elle m'adorait parce qu'elle me posait une question, elle avait 10 réponses. Donc elle était absolument ravie.
Ah bah c'est dommage, ouais. Vous voulez pas marcher avec moi jusqu'à Bourbruche ? Comme ça, vous racontez toute l'histoire.
Ah, mais si j'avais le temps, je serais venue. Je serais venue, avec joie.
Ouais. C'est gentil. Martine, vous m'amusez parce que vous dites que vous êtes antimilitariste. Bon, et vous avez vécu toute votre vie avec un militaire. Et surtout, aujourd'hui où votre mari est décédé, vous portez quand même une veste militaire.
Oui.
Pour une antimilitariste.
Mais alors ça, je vais vous dire... Vous avez à peu près mon âge, vous êtes né en 62, moi ouais. Je suis né en 59, et on a eu toute la période Babacool. Et on avait d'autres trucs, c'était de récupérer des vestes militaires pour mettre une croix des hippies derrière, là. Ouais. Et c'est un peu comme ça, et c'est un peu pour ça. Et moi, je n'avais pas de veste militaire, j'avais une veste de la poste. Mon père était facteur, donc c'était un peu la couleur, ouais, donc oui. J'avais une veste de la poste. Et maintenant que je peux avoir des vestes militaires, ça me plaît bien. Mais sinon, j'ai aussi les kickers, c'est le du flocote, voilà.
Alors là, on est sur un promontoire et on a une vue panoramique sur toutes les Vosges.
Toutes les Vosges, toute la ligne des Vosges, enfin en tout cas avec la Lorraine. La Lorraine est juste derrière. Donc le Donon, là, cette table qu'on voit en face, c'est le Donon. Et c'est un endroit où toute l'histoire du coin s'est déroulée là. Enfin, même, voilà, on trouve tout. On remonte jusqu'à l'époque gallo-romaine, même avant, quoi. C'est un haut lieu de culte gallo-romain. Il y a encore quelques vestiges. C'est un endroit absolument magique. Quand vous allez là-haut, vous avez une vue sur la Lorraine somptueuse, une vue sur l'Alsace. En fait, c'est un endroit vraiment, vraiment incroyable, quoi. Et à côté, cette petite pointe, à droite.
Ouais.
Donc il y a un petit col entre, il y a cette petite pointe, c'est le Petit Donon. Et ce Petit Donon a été le théâtre d'une bataille en août 1914. C'était les trois jours les plus meurtriers de la guerre. En fait, les Français sont venus, oh, on va récupérer les Assassins de Lorraine, ils sont venus comme des fous. Et les Allemands, bah, les ont laissés un petit peu avancer. Et après, ah, ils leur ont donné une bonne. Et pendant trois jours, ça a été, il y a eu énormément de morts à ce moment-là. Et ils ont tenu un moment cette position. Et il y a eu, je ne sais plus combien de morts, 400 et quelques morts, je crois. Je ne sais plus si c'est que de la côté ou tout confondu. Enfin, ça n'a pas d'importance, le nombre de morts. Et en 1916, donc ils ont été enterrés sur place. En 1916, les croix commençant à dégrader, il y a lieutenant et un tailleur de pierre allemand qui sont venus graver sur les pierres de grès qui se trouvaient sur place, graver à l'endroit où il y avait Zwei Franzosen et le numéro du régiment. Il y a quelques noms, je pense peut-être d'officiers. Il y a aussi un endroit où il y a ein Deutsche Soldaten, et il y a une croix de fer qui est gravée à côté, donc c'était certainement décoré. Enfin bon, il y avait à peu près, je crois, une affaire de 250 stèles qui ont été gravées sur place. Il en reste une quarantaine autour du sommet de cet endroit. Et alors, c'est quand même particulier parce qu'en pleine guerre, ces deux Allemands ont gravé aussi bien les soldats français que les soldats allemands. Donc il y a quand même, moi je trouve que c'est un symbole très fort, quoi. Et cette promenade là-haut, en plus c'est magnifique, c'est un endroit, Ludono est bourré de monde, là il n'y a presque personne, quoi. Ouais. Donc il y a quelque chose qui se dégage, c'est un très très bel endroit. Et pour l'anecdote sentimentale, on était avec Henri et c'est la première fois qu'il m'a pris dans ses bras.
Merci de partager ça avec moi.
Donc en fait, voilà, c'est un bon symbole. Voilà, un endroit comme celui-là qui a vu tant d'horreurs, ben, il s'est passé un moment voilà,
la naissance d'un couple.
Charmant, oui.
Et donc là, on est dans le camp du Strudhof. Il y a le musée à gauche et juste devant, un gisant en cuivre qui a été sculpté là et qui représente un déporté cadavérique.
Oui, bah oui, cette statue-là date de 73, je crois. Et là, je viens de m'apercevoir, c'était un projet qui était dans les tuyaux depuis quelque temps, je viens de m'apercevoir qu'à une vingtaine de mètres, sous des sapins, un endroit qu'on peut qualifier de bucolique si on voit pas le gisant qui est juste à côté, ils ont installé une aire de pique-nique. Et je suis un peu gênée par rapport à ça, parce que quand on sait le nombre de gens qui sont morts de faim ici, c'est un peu étrange. Et après, moi, ce qui m'interpelle, c'est est-ce que les gens vont manger là? Est-ce que c'est une demande? Et je pense que oui, parce que j'avais une amie qui était guide pendant 8 ans ici au Struthof. Et elle est intervenue très souvent pour empêcher les gens. Il y a un endroit qui s'appelle la fosse aux cendres. Et ils demandaient d'aller pique-niquer parce que la pelouse est bien tendue. Quoi. Donc il y a quand même quelque chose. On a l'impression que le camp du Struthof rentre dans l'histoire. Et il n'y a plus la proximité de cette période-là. Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et qui risque de nous taper dans la figure un jour ou l'autre. Quoi. C'est un peu. Moi, ça m'inquiète beaucoup, quoi, ce genre de choses. Et on en fait un endroit. Vous voyez, Hervé, tout est bien tondu, tout est magnifique.
On entend même la tondeuse.
Ouais, on a presque envie d'y habiter. Je vais vous montrer la chambre à gaz, c'est pareil. C'est presque un endroit. On pourrait en faire un gîte rural à la gloire de la taille de pierre. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Quoi.
Enfin là, en tout cas, il n'y a personne qui pique-nique.
Non, pour l'instant, il n'y a personne. À voir. Je crois que je vais de temps en temps m'arrêter aux heures des repas pour venir voir si quelqu'un... je pense que oui. Hein, je pense que oui. Ouais. Il y a même une anecdote un peu tristounette. Il y avait deux dames allemandes. Je ne mets pas d'opprobre sur le peuple allemand, loin de là, qui sont venues et ils ont été visiter le four crématoire. Moi, c'était toute la visite et la sortie du four crématoire, donc la visite est terminée. Ils sont installés sur un banc, ils ont fait sortir leur petit chien de cabas. Bon, le chien, c'est pas trop dérangeant. Ils ont sorti une bouteille de ce qui ressemblait à du champagne, mais certainement du crémant, je sais pas, et deux coupes. Et ils ont trinqué là en bas devant le four crématoire.
Et là, il y a un petit texte. C'est dans les camps de concentration qu'est née notre solidarité d'hommes libres, notre fraternité alors commune européenne, au-delà de nos langues, de nos nationalités, de nos confessions, de nos convictions, de nos frontières, afin que nous ne revoyions plus jamais ça, ni nos enfants, ni nos petits-enfants, ni l'humanité. Représentants des pays européens, vous avez entre vos mains la possibilité de faire ce que l'âge, la vieillesse nous retire. Vive la France, vive l'Europe, vive la liberté et vive la paix. Et c'est signé Robert Salomon, déporté français. J'ai laissé Martine, qui était intarissable sur toute l'histoire de sa région. C'était un bonheur pour moi de découvrir ces lieux avec elle, qui m'expliquait tout ce qui s'est passé. Je dois dire que c'est un peu plombant quand on part de là, qu'on voit ce camp avec ses bâtiments, certains qui ont été rasés, d'autres qui ont été retapés. Et ce qui a été le plus émouvant pour moi, en fait, c'est effectivement la carrière du Struthof, où les déportés venaient travailler là pour toutes ces différentes activités, entre autres sortir ces pierres. Et puis après, là, je suis passé par le col de l'Apéreux, dont nous a parlé Martine, où on a brûlé et pendu des sorciers et des sorcières. J'aperçois maintenant, sur la droite, le versant où j'étais tout à l'heure. Et moi, je vais vers la gauche, toujours... un temps très clément, mais on annonce du froid et de la pluie pour ce week-end. Alors, on profite. Alors, l'autre truc qui me plombe un peu, bah, c'est ce souci d'ordinateur qui recommence, quoi. Alors que Microsoft m'a envoyé un nouveau clavier, quoi, et que jusque-là, j'avais aucun problème. Je finis par penser que c'est pas vraiment un clavier qui est très transportable dans un sac à dos, même dans une housse. Et avec ce message d'Inès, qui gentiment après, quand elle a su ça, elle a regardé sur une carte pour voir combien de kilomètres ça lui faisait pour venir m'apporter le clavier. Mais bon, je l'ai rassuré en lui disant que voilà, là, j'avais réussi à réparer. Pour combien de temps? À suivre. D'ailleurs, je crois qu'il y a eu un petit bug dans la balado d'hier où je présente mes excuses au recteur qui se répète. C'est pas lui qui se répète, c'est moi qui ai dû faire une fausse manip. Et d'ailleurs, dans le mail d'Inès, elle répond à ma question. Quel est ton rêve? Eh bien, je pense que quand j'étais enfant, mes rêves étaient en lien avec l'idée de reproduire ce que la société nous montrait. Trouver l'amour, se marier, avoir des enfants. Puis en grandissant, on se rend compte qu'on est toujours dans la quête de soi, de mieux se connaître, de trouver ce qui nous rend heureux.
De la même manière que ce qui me rend heureux, c'est de grandir, mon rêve est d'arriver à ne pas être prise par la frénésie du quotidien et de pouvoir vivre des moments simples de partage, de complicité, d'aventure avec mes enfants qui grandissent, mes parents qui vieillissent, les amis qui nous aiment tels que nous sommes. C'est ce qui nous nourrit et qui au final restera dans nos cœurs. Bonne route et belles découvertes qui, j'en suis sûr, te feront toujours et encore grandir. Merci Inès et encore merci pour ton soutien logistique. Christine et Marc, ah, notre rêve, nos rêves, rester longtemps en pleine forme pour voyager à pied et à vélo et que la délinquance disparaisse pour que nous puissions laisser nos beaux vélos Kélonis artisanaux fabriqués à Épinal par notre fille et son associé sans crainte de nous les faire voler. Post-scriptum, si jamais ton chemin te mène à Épinal, notre fille se ferait un plaisir de te recevoir. Eh bien, je note. Et j'ai une pensée pour mon fils Léonard qui s'est fait voler son beau vélo électrique aussi. Et là, je marche sur une herbe bien moelleuse et je redescends vers Solbach. Bon, alors après, j'ai traversé Poutaille et la forêt de Colroy-la-Roche. Et là, j'arrive à Bourbruche. Mais bon, c'était pas à Bourbruche exactement, mon hébergement, c'est alors dans un cadre magnifique. J'aperçois la maison, là, au milieu de la prairie, si je puis dire, mais il y a une vraie prairie, et derrière, une petite colline boisée, et moi, je suis sur un chemin de terre, au milieu de grandes prairies vertes, et je dois dire que ça me redonne un peu le moral, parce que j'ai été un peu plombé par le camp, c'est quand même normal, pas s'empêcher de penser à tout ce qui s'est passé là-bas. Quand on voit ces miradors, on me dirait, hein, j'étais pas obligé de passer, mais bon, quand même. Et il y a ça, et puis il y a aussi le fait que là, c'est un peu la loterie, quoi. Je sais pas si mon ordi va marcher, ou si je vais arriver à le faire marcher comme hier après des petites manips, ou s'il va me planter un jour pour de bon, quoi. Donc il y a un côté, bah attends, ça sert à rien que je fasse une interview si derrière je peux rien faire. Alors, j'y crois, hein, avec un beau ciel bleu comme ça, un beau soleil, je me dis, c'est pas possible. Et puis là, j'ai reçu un petit mail. Marie-Pierre. Bon chemin pour cette nouvelle traversée, presque un an que tu es passé par notre chère Corrèze. Quel serait mon rêve? J'ai eu 70 ans hier, et Alain a 70 ans demain. Donc bon anniversaire Alain, hein. Qu'enfin on se réveille pour notre belle terre, que dire de la guerre? Bon vent et bien amicalement. Eh bien, merci Marie-Pierre. Oui, Marie-Pierre, c'est la femme de Jésus. Je ne vais pas vous la refaire, mais j'étais chez eux en Corrèze, à Sainte-Féréole, pendant la Diagonale du Vide. Les nouveaux auditeurs, demain c'est dimanche, vous pouvez réécouter, hein, toute la Diagonale, vous pouvez réécouter Compostelle. Puis bon, si jamais mon ordinateur ne marche pas, bah, comme ça vous avez tout ça à réécouter, hein. Demain, je ne vous garantis pas une balade au bonus avec tout ce que je viens de vous raconter. Demain soir, je n'ai pas encore d'hébergement, je ne sais pas, justement, c'est aussi ça. Je ne sais pas trop dans quelle direction aller. On annonce de la pluie. Enfin bon, rien de grave, hein. Vous voyez, là, vraiment, j'y reviens. Mais là, je suis sur un petit chemin avec le soleil qui projette les ombres des arbres sur le chemin. Un petit étang. Et le chemin qui tourne sur la droite, qui se dirige sur cette petite maison, au milieu de nulle part. C'est magnifique. L'herbe est tellement bien tondue qu'on pourrait croire un golf, mais sans golfeur. Et si vous voulez m'écrire pour me dire votre rêve, n'hésitez pas, hein, hervé.pochon@gmail.com. Et autrement, il y a X et Insta HPochon. Allez, je vous fais la bise, tiens, ouais, pour une fois, je vous fais la bise, ouais. Et puis je vous dis à lundi, si le cœur vous en dit. Mais d'ici là, portez-vous bien, bonne balade à tous. Allez, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.